France Info.
Bonjour Amélie Nothomb.
Bonjour Élodie Suigo.
Votre plume a d'ores et déjà séduit des milliers de lecteurs depuis vos débuts il y a 33 ans. 33 ans passés à nos côtés et 33 romans. Tous ont été des succès. Il y en a un qui reste malgré tout davantage dans nos bibliothèques, même s'ils en font tous partie. C'est sans conteste Stupeur et tremblement pour plein de raisons. Et notamment parce que vous avez été honoré du Grand Prix du roman de l'Académie française avec à la clé un arrêté royal qui vous a accordé le titre honorifique de commandeur de l'Ordre de la Couronne. Et par là même, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, donc le roi Philippe, vous a proposé la concession du titre personnel de baronne. En 2015, vous avez également été élu membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Tout ça pour dire qu'en 33 ans, vous avez grandi à nos côtés autant que nous avons grandi à vos côtés, avec à la clé des histoires qui nous ressemblent autant qu'elles vous ressemblent. Et pour cause, au fil du temps, vous vous êtes de plus en plus livré au point de coucher vos émotions intimes et personnelles sur le papier et au fil des pages, même si avec toujours beaucoup de pudeur. Vous nous aviez raconté votre sœur, votre père. Aujourd'hui, vous nous racontez votre mère, avec tant mieux, aux éditions Albin Michel, l'histoire de la transmission au sein d'une famille où les enfants sont plus adultes, souvent, et plus responsables que les parents, et où on décèle à quel point les histoires d'adultes peuvent abîmer à vie ce qui est avant tout censé être le fruit de l'amour et qui va par moments se transformer en fruit de la haine. Au cœur de l'histoire, il y a la petite Adrienne, fille d'Astrid et de Donatien, et petite sœur de Jacqueline. Le couple maintient le lien, même s'il bat de l'aile avec des histoires d'amour parallèles, des mensonges, et même une violence conjugale. Deux grands-mères sont au cœur de cette histoire, diamétralement opposées. L'une n'est qu'amour, l'autre que haine. Et pour survivre à tout ça, Adrienne apprend à affronter l'inacceptable en s'offrant le terme « tant mieux », ce qui relativise chaque moment difficile. D'avoir des mantras permet-il de rester debout, Amélie ?
Oui, quand on assimile complètement le mantra et quand le mantra est « tant mieux », je pense que ça permet de rester debout. Ma mère, puisque Adrienne n'est autre que ma mère, toute seule à l'âge de 4 ans, livrée à son abominable grand-mère maternelle, ayant compris que personne ne viendrait la sauver et qu'il faudrait qu'elle s'en tire toute seule, cherchait une formule magique et la trouve dans les termes « tant mieux ».« Tant mieux » devient son mantra. « Tant mieux », qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire « puisque tout va mal, décidons que tout va bien ». Puisque je veux m'en sortir, donc ça va bien se passer. C'est l'optimisme paradoxal. Ma mère avait tellement assimilé le tant mieux que les gens qui la connaissaient bien l'appelaient Madame Tant Mieux.
Elle vous a transmis ça, votre mère, Amélie, cette capacité, même si vous avez décelé très tôt, d'ailleurs vous vous livrez énormément dans cet ouvrage, vous dites qu'à 5 ans vous avez décelé que vous étiez différente des autres, que vous aviez un côté très sombre, avec des ténèbres, des démons, entre guillemets. Est-ce qu'elle vous a donné cette envie ? Vous dites qu'elle vous a sauvé, elle vous a donné envie d'aller de l'avant, de voir les choses mieux ?
Oui, ma mère m'a vraiment sauvée parce qu'elle m'a appris le tant mieux. Mais vous voyez, chez moi, le tant mieux, il est de seconde main. C'est ma mère qui me l'a appris. Je ne l'ai pas trouvé toute seule. Je ne l'aurais jamais trouvé toute seule. J'avoue ma folle admiration pour cette ancienne enfant de 4 ans qui a trouvé ça toute seule et qui, devenue ma mère, se rend compte que j'ai une nature sombre. Je sais que ça ne se voit pas, mais si ça ne se voit pas, c'est grâce à ma mère. C'est parce que ma mère, me voyant toute petite en proie aux ténèbres, est venue me dire mais qu'est-ce que tu as ? Et puis moi, j'avais 5 ans, 6 ans, je dis je ne sais pas. Elle m'a dit très gentiment, mais très fermement, « Mais tu n'as pas le droit. » Et ça, c'est ce que j'ai intériorisé. « Tu n'as pas le droit de céder aux ténèbres. Tu n'as pas le droit de ne pas aller vers le tant mieux. » Mais vous voyez, chez moi, c'est une chose apprise. Je ne l'ai pas trouvée toute seule.
Ce tant mieux, il affronte aussi la duplicité d'un individu, le fait parfois d'être double. Effectivement, votre mère se dissociait. C'est ce qui l'a sauvée, elle aussi.
C'est l'attitude naturelle d'un enfant qui assiste à des choses inhumaines. La mère de ma mère était serial killer de chats. Ma mère, à l'âge de 8 ans, a vu sa mère en train de tuer des chats avec cruauté. Pour un enfant, c'est un choc abominable de voir une chose pareille. Et c'est là que ma mère, à son insu d'ailleurs, parce qu'elle n'a jamais su qu'elle réagissait comme ça, s'est dissociée. Quand j'ai connu ma mère, elle avait cette tendance à la dissociation, mais je ne le savais pas. J'observais que ma mère, une fois de temps en temps, basculait de l'autre côté. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qui lui était arrivé, que c'était une mesure de protection qu'elle avait adoptée à son insu pour résister à des spectacles insoutenables pendant son enfance.
Alors, elle détestait les chats pour une raison très simple, c'est que sa propre
mère... ma grand-mère détestait les chats pour une raison simple, c'est que sa propre mère, donc mon arrière-grand-mère, préférait ses chats à ses enfants. Elle avait réuni ses trois filles au pied de son lit, tout en gardant tous ses chats dans ses bras. Elle a dit à ses filles, vous voyez, mes filles, vous, je ne vous aime pas, mes chats, eux, je les aime. Ma grand-mère, qui était alors une enfant, en a conçu une haine absolument pathologique envers les chats, d'où sa décision de tuer tous les chats qu'elle pourrait tuer au cours de sa vie, ce qui a fait un sacré paquet.
Adrienne, elle a 4 ans quand le livre démarre. Elle a plusieurs amis imaginaires, notamment, comme elle n'a pas de jouets, cette fameuse grand-mère lui remet une cuillère cuillère en bois, en lui disant, voilà, c'est accommodé avec ça. Oui. L'autre grand-mère, ce sera une poupée, mais elle, ce sera une cuillère en bois. Et en fait, elle va tomber en amour et en amitié pour cette cuillère en bois. Est-ce que ça permet justement aussi les objets, par moment, et l'imaginaire de sortir des torpeurs dans lesquelles on vit?
Mais bien sûr, une simple cuillère en bois reçue par cet enfant de 4 ans, extrêmement imaginative et qui va en plus donner à la cuillère en bois le prénom de Maïzena, ce qui est adorable, peut devenir un objet transitionnel extraordinaire. Une enfant avec beaucoup d'imagination peut avoir la vie sauvée par une cuillère en bois, donc par une amie imaginaire, c'est fantastique.
Ce roman, il est basé sur la transmission. C'est pour ça d'ailleurs qu'il devient universel, c'est pour ça qu'il nous touche toutes et tous.
Il est basé sur la transmission parce que ma mère, qui était en fait une femme très simple, ne sait pas tout ce qu'elle m'a transmis. Moi, j'ai conscience que ma mère... Mon père a énormément fait pour moi, c'est évident, mais ma mère a encore plus fait pour moi, parce que ma mère, qui était une femme pas très cultivée, mais extrêmement instinctive, a senti tout ce qui n'allait pas chez moi et m'a donné à temps les bonnes réponses. Et il y a aussi un passage du livre où j'explique, bon, mes parents m'ont donné énormément d'affection, c'est très important, c'est merveilleux, mais ils m'ont donné une autre chose dont les enfants ont aussi très grand besoin. Ils m'ont donné de la considération. C'est-à-dire qu'ils m'ont regardé aussi comme une vraie personne, pas seulement comme le petit bout de chou qu'on câline, mais comme une vraie personne en observant mes caractéristiques. Bon, j'ai eu des parents formidables.
Il y a aussi des phrases choc, parfois assassines, dans tout ça. Profite bien de ta jeunesse, par exemple. Elle ne dure pas et après on ne sait pas ce qu'on devient. Ça veut dire quoi?
Ça, c'était une des phrases de ma grand-mère qui était très méchante, hein, il faut bien le dire. Elle avait été une jeune femme d'une beauté, mais absolument insoutenable. Et puis, elle avait perdu sa beauté tardivement, d'ailleurs. Mais enfin, elle l'avait quand même perdue à force, sans doute, de méchanceté. Son horrible âme avait fini par s'inscrire sur son visage. Et alors, elle ne supportait pas de voir des jeunes femmes, des fraîches jeunes femmes agréables à regarder. Et à tous les coups, elle leur disait des choses comme « Profite bien de ta jeunesse, parce que ça ne durera pas ». Enfin, elle était vraiment très méchante.
C'est dur d'avoir conscience qu'on descend de là, de cet arbre généalogique-là, vous qui êtes touchée par la psychogénéalogie.
Non, parce qu'il y a eu ma mère, qui était dans une lignée de femmes haineuses, son arrière-grand-mère haineuse, sa grand-mère haineuse, sa mère haineuse, qui se transmettent cette haine, et surtout cette haine féminine. Ma mère n'a pas hérité de cette haine. Ma mère a transformé cette haine en amour. Ma mère aimait sa mère. Pourtant, elle voyait que sa mère était une femme, comment dirais-je, très discutable. Elle avait décidé qu'elle aimerait et qu'elle protégerait sa mère jusqu'au bout. Et tout ça sans avoir le sentiment de faire quelque chose d'exceptionnel. Donc, on peut dire que vraiment, ma mère a terminé une lignée de haine et l'a transformée en amour. Donc, finalement, je suis très heureuse de descendre de cette famille-là.
Il y a beaucoup de fierté dans ce roman.
Réel
besoin de rester digne. Vous écrivez « Susciter la pitié, c'est une humiliation. Les sourires apitoyés, c'est dur à supporter. Sois fière d'être une fille aussi solide. » C'est ça qu'il faut se dire?
Oui, mais ça aussi, c'est une chose que ma mère m'a apprise. Parce que je me souviens, quand j'étais petite, quand j'avais des bobos, comme tous les enfants, je voulais être consolée, aller pleurer dans les bras de ma mère. Et je me souviens que ma mère me regardait avec un grand sourire et elle me disait « Tu sais, je ne m'inquiète pas du tout. » Et alors je me souviens que j'étais un peu indignée. « Mais si, inquiète-toi, c'est affreux, j'ai un bobo. » Et elle disait « Non, non, il ne faut jamais faire pitié, c'est horrible de faire pitié. » Et ça aussi, c'est une chose que j'ai apprise. Elle avait totalement raison, c'est horrible de faire pitié.
Parlons de la lucidité. Être lucide efface-t-il la magie de l'insouciance? Amélie, c'est une question que vous soulevez à travers ce roman.
Ah, c'est une question terrible. Ma mère a été forcée de devenir lucide à l'âge de 4 ans. Et pourtant, il y avait une place en elle pour une véritable insouciance. Elle était les deux. Elle avait des moments, en tant qu'enfant, tout à fait adulte, quand elle s'occupait, par exemple, de sa petite sœur maltraitée, ou quand elle vient protéger sa propre mère contre son père qui la bat, elle a 8 ans, elle prend la poêle à frire en menaçant son père. Donc elle avait des moments où elle n'était pas insouciante du tout, mais à côté de ça, elle pouvait être d'une insouciance phénoménale quand elle rentrait de l'école et que, bon, elle est très vite devenue un cancre et qu'elle envoyait promener les devoirs parce que aller faire du vélo était tellement plus important. Je pense que je tiens de ma mère aussi la passion du vélo. Il n'y a pas de plus grand plaisir dans la vie que de partir faire du vélo. C'est beaucoup plus important que de faire ses devoirs.
Il y a beaucoup d'incompréhension quand on lit ce roman. On se demande pourquoi ce couple perdure, pourquoi en tout cas ils restent ensemble. Et il y a question d'amour éternel. C'est quoi l'amour éternel alors?
L'amour éternel, d'abord, c'est l'amour que j'ai pour ma mère et que ma mère a pour moi. Elle n'est plus de ce monde, mais je suis sûre que là où elle est, elle m'aime toujours, je le sens. L'amour éternel, c'est aussi celui que se vouaient mes parents. J'ai connu en la personne de mes parents un exemple d'amour éternel. Ils s'étaient rencontrés quand ma mère avait 16 ans et mon père 18 ans. Ça a été le coup de foudre. Ils se sont aimés toute leur vie, jusqu'à la mort. Ça existe. Et c'est d'autant plus admirable que ma mère avait assisté toute son enfance, toute sa jeunesse à des parents s'entre-déchirants. Elle allait dire à ses parents « Mais pourquoi ne divorcez-vous pas ? À quoi on lui répondait ce qui était la réponse de l'époque, hein, à savoir, mais on ne brise pas un ménage, on ne brise pas une cellule sociale. Oui, il vaut mieux s'entretuer que de briser un ménage.
Vous dites, aimer quelqu'un, cela ne signifie pas s'appuyer sur lui. Il faut rester indépendant. L'indépendance, c'est un leitmotiv.
Pour aimer bien, pour que l'amour soit une belle chose, il ne faut pas que l'autre soit le bâton sur lequel on s'appuie. Il faut s'aimer tout en laissant à l'autre son indépendance et tout en conservant son indépendance. C'est très difficile. Hein. Ne croyez pas que je trouve ça facile au quotidien. J'aime quelqu'un et je m'efforce d'être indépendante par rapport à ce quelqu'un. Ce n'est pas toujours simple. Mais clairement, si on veut que ça marche, c'est ce qu'il faut faire.
On n'est pas que responsable soi-même. C'est ce que vous expliquez. C'est-à-dire que on peut s'accorder de la profondeur, mais il faut avoir une forme de recul. Si on veut aider quelqu'un, la méthode consiste à s'occuper d'abord de son jardin. Ça, c'est très important
c'est
de le préciser.
C'est très important. C'est une erreur que j'ai énormément faite au cours de ma vie. J'ai un côté Saint-Bernard, j'adore aider les gens. Et en fait, ça, c'est de l'orgueil, c'est de la démesure. La vérité, c'est qu'on ne peut pas beaucoup aider les gens. Les gens doivent s'aider eux-mêmes. Ben, par contre, si on veut vraiment aider les gens, il faut leur donner l'exemple de sa propre lumière, donner une impression de bonheur et de santé, surtout si c'est vrai. Et c'est ainsi qu'on va vraiment aider les gens.
On sent que en 33 ans, vous avez appris à cultiver votre jardin, que vous déposez des bagages au fur et à mesure, quoi. Quasiment à chaque roman, vous déposez quelque chose.
C'est tellement vrai ce que vous dites. C'est tellement vrai, mais croyez-moi, j'ai encore beaucoup à apprendre, raison pour laquelle je vais certainement écrire encore beaucoup.
Mais en attendant, on sent que vous êtes à cœur ouvert, avec pudeur, mais sans vous cacher. C'est un gage de confiance, ça, avec vos lecteurs.
C'est un gage de confiance. Vous savez, cette très belle histoire d'amour que je vis avec tant de lecteurs dure depuis 33 ans. Ça me fait déborder de gratitude. Mais évidemment, ça implique une réciprocité. Ça suppose aussi que je ne mente pas. Bon, là, ma mère est morte il y a un an et demi. J'ai passé une année à être incapable de le dire. Et ce n'était pas parce que je voulais mentir, c'est parce que les mots ne sortaient pas de ma bouche. Donc, je présente mes excuses à tous ces gens à qui il m'est arrivé de mentir, parce que des lecteurs me disaient « Et comment va votre mère ?» Et je répondais « Très bien !» Et ce n'était pas par plaisir de mentir, c'était parce que je n'y arrivais pas. J'ai écrit ce livre pour bien des raisons, mais aussi parce que je voulais enfin être capable de dire aux gens « Voilà, ma mère est morte et maintenant je suis orpheline. »
Là, c'était une déclaration d'amour hein, que vous offrez à votre mère. C'est aussi une façon de réhabiliter la femme qu'elle était, ce qu'elle avait vécu, même si elle ne l'a pas forcément dit à voix haute.
Oui, parce que autant quand mon père est mort, tout le monde a salué mon père, et pour les meilleures raisons, mon père était un homme exceptionnel et un héros, autant quand ma mère est partie, ça a été le très grand silence. Et ça m'a fait mal de voir que cette femme tellement merveilleuse, personne ne remarquait qu'elle n'était plus là. Donc j'écris aussi ce livre pour lui rendre justice, pour que les gens se rendent compte que cette femme a existé.
C'est très touchant parce que vous dites que vous avez réussi à la séduire. Cette maman, c'était un but aussi.
Oh oui, quand j'étais petite, moi, mon grand but, c'était de séduire ma mère.
Vous avez réussi à 42 ans. Vous avez pris conscience à 42 ans.
À 42 ans, j'ai enfin réussi à séduire ma mère. Ça, j'ai pris beaucoup d'années, mais ça a fini par marcher.
Merci beaucoup, en tout cas, Amélie, autour de notre passé dans le monde d'Élodie sur France Info s'appelle Tant mieux. Effectivement, c'est une belle façon de voir la vie du bon côté. C'est sorti aux éditions Albin Michel. Merci infiniment.
Merci mille fois, Élodie.